Il est 22h. L'heure de faire un point détaillé sur l'information avec vous, Thibault Lambert. Bonsoir Thibault.
Bonsoir Johanna, bonsoir à tous. Ce n'est pas la faute de l'arme, mais des tireurs. Donald Trump campe sur ses positions après la mort de 30 personnes dans deux fusillades samedi aux États-Unis. Le président qui préfère pointer du doigt la violence des réseaux sociaux et des jeux vidéo. On revient dans un instant sur ce discours qui était très attendu. 85 femmes tuées depuis le début de l'année. Dernier drame hier soir, la victime était enceinte. Le gouvernement ne veut plus attendre. Pas de bâche sur Notre-Dame, la mairie veut calmer le jeu alors que l'inquiétude grandit sur la pollution au plomb dans le quartier du monument. Retour sur cette passe d'armes entre mairie et association aujourd'hui. Pas de décharge sur la plage, le gouvernement met en place une charte pour récompenser les bons élèves adeptes du zéro plastique sur le littoral. Et puis on reviendra sur le transfert de Dario Benedetto à l'Olympique de Marseille. Une revanche pour celui qui plus jeune a failli tout arrêter.
Europe 1.
Sa parole était très attendue après les deux tueries de samedi, deux fusillades au Texas et dans l'Ohio qui ont fait en tout 30 morts aux États-Unis. Benoît Clerc, vous avez suivi la conférence de presse de Donald Trump il y a quelques heures et ceux qui attendaient des annonces fortes sur l'encadrement des armes à feu risquent d'être déçus. Pendant 9 minutes, le président américain est resté sur la même rhétorique.
Oui Thibault, même s'il a employé des mots forts comme assassin barbare ou diable transformé en monstre pour parler des deux tueurs de ce week-end, Donald Trump n'a quasiment pas changé de discours après deux ans passé à la Maison-Blanche. Certes, il a condamné plus fermement le racisme et le suprémacisme blanc, réclamant que les auteurs de fusillades soient rapidement exécutés, que les malades mentaux soient internés d'office, que des outils de prévention voient le jour sur Internet, ou encore que les jeux vidéo soient mieux réglementés. Même si, pour lui, les tueries de masse sont, je cite, « un crime contre l'humanité », le président n'a en revanche pas parlé du puissant lobby des armes qui jouit d'un total support des élus républicains, hostile à toute discussion sur le sujet, dans ce pays où l'on compte plus de 400 millions d'armes. Les faits sont là. Il n'y a pas eu de véritable réforme du port d'armes depuis 25 ans, même si la Chambre des représentants s'est montrée récemment favorable au contrôle préventif. Le Sénat bloque systématiquement chaque projet de loi et ce énième discours n'y changera rien. Une fois l'émotion et la colère passées, l'Amérique sait qu'elle sera à nouveau confrontée à ses démons 20 ans après Columbine, 7 ans après Sandy Hook, 3 jours après El Paso et Dayton, avec une seule question, où et quand relèvera-t-on les prochaines victimes ?
Benoît Clerc, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et les armes à feu, elles font aussi des victimes en France, où il arrive encore que des femmes meurent sous les coups de feu de leurs conjoints ou ex-compagnons. C'est la tragédie qui s'est produite hier soir dans les Bouches-du-Rhône, Virginie Salmen, la 85e victime de féminicide depuis le début de l'année.
Cette nouvelle victime est une jeune femme de 29 ans qui venait récupérer son fils de 6 ans chez son ex-compagnon hier vers 18h dans une zone pavillonnaire de Marignane, au nord de Marseille. D'après les premiers éléments recueillis par la police, l'homme n'admettait pas qu'elle ait refait sa vie avec un autre, dont elle attendait un enfant. Elle était enceinte de 7 mois. Elle était devant la maison de son ex quand il est sorti et l'a abattue quasiment à bout portant de plusieurs balles dans la tête et dans le ventre. Elle est morte très peu de temps après. Son ex-compagnon a été interpellé chez lui hier dans la soirée. Il est actuellement en garde à vue. C'est un homme qui avait déjà été condamné pour des violences sur policiers et quelques autres infractions. Le cas de cette jeune mère est la triste illustration des statistiques. Une femme tous les deux jours est tuée par son compagnon ou ex-compagnon en France depuis le début de l'année, souvent pendant ou après une séparation. Alors en plus des statistiques officielles, des bénévoles recensent chaque meurtre sur une page Facebook intitulée « Féminicide par compagnon ou ex », car les chiffres sont toujours aussi élevés. Un Grenelle des violences conjugales est prévu à la rentrée, le 3 septembre, pour essayer de trouver des solutions et faire en sorte que la prise de conscience sur ce sujet aboutisse enfin à des résultats.
Virginie Salmen et sur Twitter, Marlène Schiappa juge insupportable que des hommes violents puissent décider de la vie ou de la mort de leur ex-compagne. « Nous travaillons sur la question du port d'armes pour ceux qui font l'objet de plaintes », indique la secrétaire d'État. Y a-t-il vraiment raison de s'alarmer ? Les inquiétudes grandissent sur la pollution au plomb après l'incendie de Notre-Dame. Plus de 400 tonnes entrées en fusion s'étaient échappées du monument en avril dernier, sujet de crispation entre riverains et élus. Et encore aujourd'hui, Sophie Echen, on a vu s'affronter les deux visions à coups de conférences de presse interposées.
D'un côté, des associations qui dénoncent un manque de transparence de la ville concernant les risques de contamination au plomb. Elles réclament trois mesures immédiates. Annie Thébomoni est porte-parole de l'association Henri pèsera.
Nous demandons une cartographie précise des lieux d'exposition, le confinement du chantier, pour qu'on arrête de recontaminer avec les poussières, évidemment, qui se réenvolent au fil de l'activité, du vent, etc. Et puis, nous demandons également la mise en place d'un centre de suivi pour les personnes qui ont été contaminées.
Mais selon la mairie de Paris, mettre la cathédrale sous cloche n'est pas la solution, car plutôt que de confiner, il s'agit surtout de dépolluer. La ville qui se veut rassurante, pour Anne Swiris, adjointe à la mairie chargée de la santé, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
On a vraiment eu un travail d'accompagnement dès le mois d'avril-mai, très important au niveau des gens qui travaillent à la ville. Nous n'avons pas eu de plombémie inquiétante. Il faut juste préjuger de se dire qu'il peut y avoir un problème et que donc nous travaillons dans un principe de précaution maximale.
La mairie de Paris promet une dépollution totale de l'île de la Cité et des quartiers environnants avant le 1er septembre. Les résultats de nouveaux relevés de contamination au plomb seront publiés demain.
Sophie Echen pour Europe 1. 300 déchets plastiques par kilomètre carré en mer Méditerranée, chiffre dramatique qui fait d'elle la plus polluée d'Europe. Brune Poirson veut donc récompenser les communes qui veillent à la propreté du littoral et inciter toutes les autres à le faire. Ça passe par la signature d'une charte des plages sans plastique présentée ce matin, avec une quinzaine d'actions comme des fontaines à eau pour éviter les bouteilles ou encore des collectes de mégots. La secrétaire d'État en déplacement dans le Var pour lancer un appel aux maires.
Ce sont vraiment le lieu de lien entre la terre et la mer. Et c'est là souvent qu'arrive la plupart et que termine la plupart des déchets plastiques avant de finir en mer. C'est par exemple les bouteilles plastiques et les mégots de cigarettes sont les premiers déchets qu'on retrouve sur les plages et qui finissent donc dans la mer. D'ici 2050, il pourrait y avoir autant de plastique que de poissons dans la mer. Et donc il est nécessaire de commencer à lutter en amont et de reconnaître aussi et de mettre en valeur les municipalités qui ont envie de faire plus. Une plage sans plastique.
Brune Poirson à la Seine-sur-Mer au micro européen de Roman Hockey. On part en Inde où une décision du gouvernement a fait l'effet d'une bombe aujourd'hui. New Delhi reprend la main sur Cachemire en lui retirant son autonomie constitutionnelle. Voilà qui relance un vieux conflit au cœur de l'Asie, Mathieu Bock.
Grand comme la moitié de la France, le Cachemire est coincé entre le Pakistan qu'il revendique et l'Inde qui lui a retiré son autonomie et qui en a pris le contrôle. Deux puissances nucléaires donc qui se disputent depuis 70 ans cette enclave peuplée de 12 millions d'habitants et qui est désormais considérée par l'Inde comme une région comme une autre, contrôlée directement par New Delhi. Les risques de soulèvement sont élevés, l'armée indienne a d'ailleurs posté 80 000 paramilitaires supplémentaires et les communications sont coupées car la majorité des habitants sont musulmans, hostiles à l'Inde, mais jusqu'à présent, leur statut particulier hérité de la fin de l'Empire britannique en 1947 leur garantissait une autonomie très importante. Le Pakistan, lui aussi, à majorité musulmane, a toujours revendiqué l'appartenance du Cachemire et hurle aujourd'hui au scandale, mais cette décision soudaine est en réalité une vieille promesse de campagne du Premier ministre nationaliste Narendra Modi, qui a été réélu triomphalement au printemps dernier.
Les explications de Mathieu Bock et ce soir, le Pakistan condamne une manœuvre illégale de l'Inde. 22h08 à Paris, 4h à Hong Kong, après une journée de paralysie historique hier. Appel à la grève générale dans ce pays où le travail est pourtant primordial. Échauffourées et tirs de gaz lacrymogène dans plusieurs manifestations, les transports en commun ont été bloqués aux heures de pointe. Le territoire semi-autonome s'enfonce dans la crise après deux mois de contestation du pouvoir chinois. Alaska, Groenland, Europe de l'Ouest, Afrique et même Antarctique ont souffert de la chaleur en ce mois de juillet écoulé. Mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde, selon le service européen Copernicus. Plus 0,04 degrés par rapport au précédent mois le plus chaud en juillet 2016. Le football, un transfert attendu depuis des semaines, confirmé ce soir par l'Olympique de Marseille. L'attaquant argentin Dario Benedetto signe pour 4 saisons au club. Une belle revanche pour un joueur au destin tumultueux, Marie Guida.
Dario Benedetto a failli tout abandonner à l'âge de 12 ans quand sa maman décède d'une crise cardiaque pendant un de ses matchs. Il s'éloigne des terrains de foot et devient maçon aux côtés de son père. Mais après un parcours de vie difficile, le succès arrive. À 16 ans, tout bascule. Il passe un essai dans le club de l'Arsenal de Sarandi où il impressionne. Il devient ensuite une star au Mexique, puis confirme à son retour en Argentine à Boca Juniors, qui l'amènera jusqu'à la sélection nationale aux côtés de Messi. Joueur de caractère et complet, il a tout pour s'adapter à l'OM, comme le confirme Nicolas Cougo, rédacteur en chef de Lucarne Opposée.
C'est un garçon qui a besoin d'être apprécié. C'est un garçon qui se fond très très bien dans un collectif, mais aussi par le public. Ça a été le cas à Boca et dans un système. Donc la ferveur, on connaît hein, tous la ferveur du vélodrome et du peuple marseillais. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'il s'adapte. La grande question va être, est-ce qu'il a recouvert toutes ses capacités physiques d'avant la blessure parce qu'il a enchaîné les pépins depuis.
Seul inconnu aujourd'hui, sa condition physique depuis sa rupture des ligaments croisés fin 2017. L'attaquant de 29 ans a du mal à revenir. Lui qui n'a jamais joué en Europe, Pipa comme on le surnomme, aura très peu de temps pour s'adapter, surtout quand on connaît l'impatience des supporters marseillais vis-à-vis de leur attaquant.
Marie Guida, autre gros transfert au Royaume-Uni entre Leicester et Manchester United. Harry Maguire devient le défenseur le plus cher de l'histoire pour 90 millions d'euros. Le joueur de 26 ans, chouchou des Anglais depuis le Mondial 2018, signe pour au moins 6 saisons. Et enfin, le monde du cyclisme endeuillé ce soir après la mort du Belge Bjorg Lambrecht. Le coureur de 22 ans a fait une grave chute pendant la troisième étape du Tour de Pologne. La météo à présent, c'est avec vous Valérie Darmon. Prudence demain pour les orages.
Absolument, la matinée va rester relativement calme et plus ou moins nuageuse, assez peu pluvieuse, sauf de la Bretagne aux Ardennes, averses qui vont d'ailleurs se démultiplier dans l'après-midi sous des nuages de plus en plus denses jusque sur la région parisienne. En même temps que demain après-midi, le temps sera très chaud et très lourd sur les régions du centre et que les premiers orages débuteront en seconde partie d'après-midi sur l'Auvergne. Ils s'accompagneront d'ailleurs de pluies intenses, de violentes rafales de vent, localement de grêle. Demain soir, ces orages violents progresseront vers le Lyonnais, l'Ain et le Jura avec une forte activité électrique sous les cellules orageuses les plus intenses, de la grêle et toujours du vent violent. Et en fin de soirée, ils s'évacueront progressivement vers la Suisse, situation à surveiller de près. Et puis ailleurs, Aquitaine et Occitanie, c'est plus calme, quoique nuageux là aussi. Le pourtour méditerranéen sort son épingle du jeu avec du soleil et des températures l'après-midi qui oscilleront entre 20 à Boulogne-sur-Mer et 34 à Avignon.
Merci Valérie Darmon. Dans moins de 20 minutes, vous retrouvez la Libre Antenne ce soir avec Sabrina Philippe jusqu'à 1h. Bonsoir Sabrina.
Bonsoir Thibault. Oui, on se retrouve à 22h30 jusqu'à 1h du matin et nous attendons vos appels au 39-21. C'est Catherine et Oscar qui vous accueillent au standard. Et puis bien sûr, nous attendons aussi vos conseils, vos réactions par SMS au 739-21, commençant vos messages par le mot nuit. Voilà, à dans quelques instants.
À dans quelques instants Sabrina. Et dans un instant, juste avant, Europe 1 vous propose de découvrir ou de redécouvrir sa création originale Europe 1 Studio. Ça s'appelle Les Attaquantes, le podcast qui raconte les femmes dans le foot. À tout de suite.